Chapitre 14. Un conciliabule à Charenton, le 20 juin, où le roi voit qu'il est certaines circonstances où, sans être jacobin, on peut mettre le bonnet rouge sur sa tête. Un homme s'était promené toute la journée dans le faubourg Saint-Antoine, en habit de général, monté sur un gros cheval flamand, donnant des poignées de main à droite et à gauche, embrassant les belles filles, payant à boire aux garçons. C'était un des six héritiers de monsieur de Lafayette, la monnaie en gros sous du commandant de la garde nationale. C'était le chef de bataillon Santerre. Près de lui, comme marcherait un aide de camp près de son général, chevauchait sur un vigoureux cheval un homme qu'à son costume on pouvait reconnaître pour un patriote campagnard. Une cicatrice laissait sa trace sur son front, et autant le chef de bataillon avait le sourire franc, la figure ouverte, autant lui avait l'œil sombre et la physionomie menaçante. « Tenez-vous prêts, mes bons amis, veillez sur la nation, les traîtres conspirent contre elle, mais nous sommes là, » disait Santerre. « Que faut-il faire, monsieur Santerre ?» demandaient les Parisiens. « Vous savez que nous sommes à vous, où sont les traîtres? Conduisez-nous jusqu'à eux. » « Attendez, » disait Santerre, « quand le moment sera venu. »« Et le moment vient-il ? » Santerre n'en savait rien, mais à tout hasard il répondait « Oui, oui, soyez tranquille, on vous préviendra. » Et l'homme qui suivait Santerre se penchait sur le cou de son cheval, parlant à l'oreille de certains hommes qu'il reconnaissait à certains signes, et il disait « Le 20 juin, le 20 juin, le 20 juin. » Et les hommes s'en allaient avec cette date à 10, 20, 30 pas, un groupe se formait autour d'eux et cette date circulait le 20 juin. Que ferait-on le 20 juin? On n'en savait rien encore, mais ce que l'on savait, c'est que le 20 juin, on ferait quelque chose. Au nombre des hommes à qui cette date venait d'être communiquée, on pouvait en reconnaître quelques-uns qui ne sont point étrangers aux événements que nous avons déjà racontés. Saint-Huruge, que nous avons vu partir le 5 octobre au matin du jardin du Palais Royal en menant une première troupe à Versailles. Saint-Huruge, ce mari trompé par sa femme avant 1789, mis à la Bastille, délivré le 14 juillet, et se vengeant sur la noblesse et la royauté de ses malheurs conjugaux et de son incarcération illégale. Verrières, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il nous est apparu deux fois, ce bossu de l'Apocalypse fendu jusqu'au menton. Une fois dans le cabaret de Sèvres avec Marat et le duc d'Aiguillon déguisé en femme, une autre fois au Champ de Mars, un instant avant que le feu commençât. Fournier l'Américain qui a tiré sur Lafayette à travers les roues d'une voiture et dont le fusil a raté. Il se promet cette fois de frapper plus haut que le commandant de la garde nationale, et pour que son fusil ne rate pas, il frappera avec une épée. Monsieur de Beaucire, qui n'a pas profité du temps où nous l'avons laissé dans l'ombre pour s'amender, monsieur de Beaucire, qui a repris Oliva des mains de Mirabeau mourant, comme le chevalier des Grieux reprenait Manon Lescaut des mains qui, après l'avoir soulevé un instant de la boue, la laissait retomber dans la fange. Mouchy, un petit homme tordu, boiteux, bancal, affublé d'une énorme écharpe tricolore lui couvrant la moitié du corps, officier municipal, juge de paix, que sais-je. Gonchon, le Mirabeau du peuple, que Pitou trouvait plus laid encore que le Mirabeau de la noblesse. Gonchon, qui disparaissait avec l'émeute, ainsi que dans une féerie, disparaît pour reparaître plus tard et toujours plus ardent, plus terrible, plus envenimé, le démon dont l'auteur n'a plus besoin momentanément. Puis au milieu de toute cette foule, réunie autour des ruines de la Bastille comme sur un autre mont Aventin, passait et repassait un jeune homme maigre, pâle, aux cheveux plats, aux yeux pleins d'éclairs, solitaire comme l'aigle qu'il devait prendre plus tard pour emblème, ne connaissant personne et que personne ne connaissait. C'était le lieutenant d'artillerie Bonaparte, par hasard en congé à Paris et sur lequel on se le rappelle le jour où il avait paru aux Jacobins qu'Agliostro avait fait à Gilbert une si étrange prédiction. Par qui est émue, remuée, excitée toute cette foule? Par un homme à la puissante encolure, à la crinière de lion, à la voix rugissante, que Santerre devait trouver en rentrant chez lui, dans son arrière-boutique, où il l'attendait, par Danton. C'était l'heure ou le terrible révolutionnaire qui ne nous est guère connu encore que par le bruit qu'il a fait au parterre du Théâtre français lors des représentations du Charles IX de Chénier et par sa terrible éloquence à la tribune des Cordeliers, fait sa véritable apparition sur la scène politique et où il va étendre ses bras de géant. D'où vient la puissance de cet homme qui va être si fatal à la royauté de la reine elle-même? Elle n'a pas voulu de Lafayette à la mairie de Paris, la haineuse autrichienne. Elle lui a préféré Pétion, l'homme du voyage de Varennes, qui, à peine à la mairie, s'est mis en lutte avec le roi en ordonnant de surveiller les Tuileries. Pétion avait deux amis, qu'il conduit à sa droite et à sa gauche le jour où il prit possession de l'hôtel de ville, Manuel à sa droite, Danton à sa gauche. Il avait fait de Manuel le procureur de la commune, de Danton son substitut. Vergniaud avait dit à la tribune en montrant les Tuileries « La terreur est souvent sortie de ce palais funeste au nom du despotisme, qu'elle y entre, au nom de la loi !» Eh bien, l'heure était venue de traduire par un acte matériel la belle et terrible image de l'orateur de la Gironde. Il fallait aller chercher la terreur dans le faubourg Saint-Antoine et la pousser, tout effarée, avec ses cris discordants et ses bras tordus, dans le palais de Catherine de Médicis. Qui pouvait mieux l'évoquer que ce terrible magicien révolutionnaire que l'on appelait Danton? Danton avait les épaules larges, la main puissante, une athlétique poitrine où battait un robuste cœur. Danton, c'était le tam-tam des révolutions. Le coup qu'il recevrait, il le rendrait à l'instant par une vibration puissante qui se répandait dans la foule en l'enivrant. Danton touchait d'un côté au peuple par Hébert, de l'autre au trône par le duc d'Orléans. Danton, entre le marchand de contremarque du coin de la rue et le prince royal du coin du trône, Danton avait devant lui tout un clavier intermédiaire dont chaque touche correspondait à une fibre sociale. Jetez les yeux sur cette gamme, elle parcourt deux octaves et est en harmonie avec sa puissante voix. Hébert, Legendre, Gonchon, Rossignol, Momoro, Brune, Huguenin, Rotondo, Santerre, Fabre d'Églantine, Camille Desmoulins, Dugazon, Lazouski, Sillery, Genlis, le duc d'Orléans. Puis remarquez bien que nous ne posons ici que les limites visibles. Maintenant, qui nous dira jusqu'où descend et jusqu'où s'élève cette puissance au-delà desquelles notre œil se perd? Eh bien, c'était cette puissance qui soulevait le faubourg Saint-Antoine. Dès le 16, un homme à Danton, le Polonais Lazouski, membre du conseil de la commune, lance l'affaire. Il annonce au conseil que le 20 juin, les deux faubourgs, le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau, présenteront des pétitions à l'Assemblée et au roi au sujet du veto sur le décret relatif aux prêtres et, du même coup, planteront sur la terrasse des Feuillants un arbre de liberté en mémoire de la séance du jeu de paume du 20 juin 1789. Le conseil refuse son autorisation. « On s'en passera », souffla tout bas Danton à l'oreille de Lazouski, et Lazouski répéta tout haut « On s'en passera ». Donc cette date du 20 juin avait une signification visible et une signification cachée. L'une était le prétexte, présenter une pétition au roi et planter un arbre de la liberté. L'autre, qui était le but connu de quelques adeptes seulement, sauver la France de Lafayette et des Feuillants et avertir l'incorrigible roi, le roi de l'Ancien Régime, qu'il y a de telles tempêtes politiques qu'un monarque peut y sombrer avec son trône, sa couronne, sa famille, comme dans les abîmes de l'océan, un vaisseau s'engloutit corps et biens. Danton, nous l'avons dit, attendait Santerre dans son arrière-boutique. La veille, il lui avait fait dire, par Legendre, qu'il lui fallait pour le lendemain un commencement de soulèvement dans le faubourg Saint-Antoine. Et puis le matin, Billot s'était présenté chez le brasseur patriote, avait fait le signe de reconnaissance et lui avait annoncé que, pour toute la journée, le comité l'attachait à sa personne. Voilà comment Billot, tout en ayant l'air d'être l'aide de camp de Santerre, en savait plus que Santerre lui-même. Danton venait prendre avec Santerre rendez-vous pour la nuit du lendemain dans une petite maison de Charenton située sur la rive droite de la Marne à l'extrémité du pont. Là devaient se rencontrer tous ces hommes aux existences étranges et inconnues qu'on trouve toujours dirigeant le courant des émeutes. Chacun fut exact au rendez-vous. les passions de tous ces hommes étaient diverses. Où avaient-elles pris leur source? Ce serait toute une sombre histoire à écrire. Quelques-uns agissaient par amour de la liberté, beaucoup, comme Billot, par vengeance d'insultes reçues, un plus grand nombre encore par haine, par misère, par mauvais instinct. Au premier étage était une chambre fermée où seuls avaient le droit d'entrer les chefs. Ils en descendaient avec des instructions précises, exactes, suprêmes. On eût dit un tabernacle où quelques dieux inconnus rendaient les arrêts. Un gigantesque plan de Paris était déployé sur une table. Le doigt de Danton y traçait les sources, les affluents, le cours et le point de jonction de ces ruisseaux, de ces rivières, de ces fleuves d'hommes qui, le surlendemain, devaient inonder Paris. La place de la Bastille, où l'on débouche par les rues du faubourg Saint-Antoine, par le quartier de l'Arsenal, par le faubourg Saint-Marceau, fut indiquée comme lieu de rassemblement, l'Assemblée comme prétexte, les Tuileries comme but. Le boulevard était la large route sûre dans laquelle devait s'écouler tout ce flot grondant. Les postes assignés à chacun, chacun ayant promis de s'y rendre, on se sépara. Le mot d'ordre général était « en finir avec le château ». De quelle manière en finirait-on? Cela restait dans le vague. Pendant toute la journée du 19, des groupes stationnèrent sur l'emplacement de la Bastille, aux environs de l'Arsenal, dans le faubourg Saint-Antoine. Tout à coup, au milieu de ce groupe, parut une hardie et terrible amazone, vêtue de rouge, avec une ceinture armée de pistolets, et aux côtés ce sabre qui devait, à travers 18 autres blessures, chercher et trouver le cœur de Sulot. C'était Théroigne de Méricourt, la belle liégeoise. Nous l'avons vue sur la route de Versailles, le 5 octobre. Qu'était-elle devenue depuis ce temps? Liège s'est révoltée. Théroigne a voulu aller au secours de sa patrie. Elle a été arrêtée en route par les agents de Léopold et retenue 18 mois dans les prisons de l'Autriche. A-t-elle fui? L'a-t-on laissée sortir? A-t-elle scié ses barreaux? A-t-elle séduit son geôlier? Tout cela est mystérieux comme le commencement de sa vie, terrible comme sa fin. Quoi qu'il en soit, elle revient, la voilà. De courtisane de l'opulence, elle est devenue la prostituée du peuple. La noblesse lui a donné l'or avec lequel elle achètera les lames aux fines trempes, les pistolets damasquinés avec lesquels elle frappera ses ennemis. Aussi, le peuple la reconnaît et l'accueille avec de grands cris. Comme elle arrive bien, vêtue de rouge ainsi, la belle Théroigne pour la fête sanglante du lendemain. Le soir de ce même jour, la reine la voit galoper le long de la terrasse des Feuillants. Elle se rend de la place de la Bastille aux Champs-Élysées, du rassemblement populaire au banquet patriotique. Des mansardes des Tuileries où la reine est montée et au cri qu'elle l'a entendu, elle découvre des tables dressées. Le vin circule, les chants patriotiques retentissent, et à chaque toast à l'Assemblée, à la Gironde, à la Liberté, les convives montrent le poing aux Tuileries. L'acteur du gazon chante des couplets contre le roi et contre la reine, et du château, le roi et la reine peuvent entendre les applaudissements qui suivent chaque refrain. Quels sont les convives? Les fédérés de Marseille, conduits par Barbaroux, ils sont arrivés la veille. Le 18 juin, le 10 août, a fait son entrée dans Paris. Le jour vient de bonne heure au mois de juin. À 5 heures du matin, les bataillons étaient rassemblés. Cette fois, l'émeute était régularisée, elle avait pris l'aspect d'une invasion. La foule reconnaissait des chefs, subissait une discipline, avait sa place marquée, son rang, son drapeau. Santerre était à cheval, avec son état-major d'homme du faubourg. Billot ne le quittait pas, on eût dit qu'il était chargé par quelque pouvoir occulte de veiller sur lui. Le rassemblement était divisé en 3 corps d'armée. Santerre commandait le premier, Saint-Huruge le second, Théroigne de Méricourt le troisième. Vers 11 heures du matin, sur un ordre apporté par un homme inconnu, l'immense masse se mit en marche. À son départ de la Bastille, elle se composait de 20 000 hommes à peu près. Cette troupe offrait un aspect sauvage, étrange, terrible. Le bataillon conduit par Santerre était le plus régulier, il avait bon nombre d'uniformes, et comme armes un certain nombre de fusils et de baïonnettes. Mais les deux autres, c'était l'armée du peuple, armée en haillons, haves, amaigris, 4 années de disette et de cherté de pain, et sur ces 4 années, 3 de révolution. Voilà le gouffre d'où sortait cette armée. Aussi là, pas d'uniforme, pas de fusil, des vestes en lambeaux, des blouses déchirées, des armes bizarres saisies dans un premier mouvement de colère, dans un premier moment de défense, des piques, des broches, des lances émoussées, des sabres sans poignets, des couteaux liés au bout de longs bâtons, des haches de charpentier, des marteaux de maçon, des tranchées de cordonnier. Puis, pour étendard, une potence, avec une poupée se balançant à une corde et représentant la reine. Une tête de bœuf avec ses cornes auxquelles s'entrelace une devise obscène, un cœur de veau piqué au bout d'une broche avec ces mots « cœur d'aristocrate ». Puis des drapeaux avec ses légendes, la sanction ou la mort, rappel des ministres patriotes, tremble tyran, ton heure est venue. Le rassemblement s'était fendu à l'angle de la rue Saint-Antoine. Santerre et sa garde nationale avaient suivi le boulevard, Santerre avec son costume de chef de bataillon, Saint-Huruge en fort de la halle, sur un cheval parfaitement caparaçonné, que lui avait amené un palefrenier inconnu, et Théroigne de Méricourt, couché sur un canon traîné par des hommes aux bras nus, suivait la rue Saint-Antoine. On devait par la place Vendôme se rejoindre aux Feuillants. Pendant 3 heures, l'armée défila, entraînant dans sa marche la population des quartiers qu'elle traversait. Elle était pareille à ces torrents qui, en grossissant, bondissent et écument. À chaque carrefour, elle grossissait, à chaque angle de rue, elle l'écumait. La masse de ce peuple était silencieuse. Seulement, par intervalle, d'une façon inattendue, elle sortait de ce silence et poussait d'immenses clameurs où chantait le fameux « Ça ira » de 1790, qui, se modifiant peu à peu, devenait un chant d'encouragement, un chant de menace. Enfin, elle faisait retentir les cris de « Vive la nation ! Vive les sans-culottes ! À bas, monsieur et madame Veto !» Longtemps avant d'apercevoir les têtes de colonne, on entendait le bruit des pas de cette multitude, comme on entend le bruit d'une marée qui monte. Puis, de moment en moment, retentissait l'éclat de leurs chants, de leurs rumeurs, de leurs cris, comme retentit le sifflement de la tempête à travers les airs. Arrivé à la place Vendôme, le corps d'armée de Santerre, qui portait le peuplier qu'on devait planter sur la terrasse des Feuillants, trouva un poste de gardes nationaux qui lui barra le passage. Rien n'était plus facile à cette masse que de broyer ce poste entre ses 1000 replis. Mais non, le peuple s'était promis une fête, il voulait rire, s'amuser, effrayer monsieur et madame Veto, il ne voulait pas tuer. Ceux qui portaient l'arme abandonnèrent le projet de le planter sur la terrasse et allèrent le planter dans la cour voisine des Capucines. L'assemblée entendait tout ce bruit depuis près d'une heure, quand les commissaires de cette multitude vinrent réclamer, pour ceux qu'ils représentaient, la faveur de défiler devant elle. Vergniaud demanda l'admission, mais en même temps il proposa d'envoyer 60 députés pour protéger le château. Eux aussi, les Girondins, voulaient effrayer le roi et la reine, mais ils ne voulaient pas qu'on leur fît du mal. Un Feuillant combattit la proposition de Vergniaud, disant que cette précaution était injurieuse pour le peuple de Paris. N'y avait-il pas l'espérance d'un crime sous cette apparente confiance? L'admission est accordée, le peuple des faubourgs défilera en armes dans la salle. Aussitôt, les portes s'ouvrent et livrent passage aux 30 000 pétitionnaires. Le défilé commence à midi et ne s'achève qu'à 3 heures. La foule a obtenu la première partie de ce qu'elle demandait, elle a défilé devant l'assemblée, elle a lu sa pétition. Il lui reste à aller demander au roi sa sanction. Quand l'assemblée avait reçu la députation, le moyen que le roi ne la reçut pas. Le roi n'était pas à coup sûr plus grand seigneur que le président, puisque lorsque le roi venait voir le président, il n'avait qu'un fauteuil pareil au sien, et encore était-il à sa gauche. Aussi le roi avait-il fait répondre qu'il recevrait la pétition présentée par 20 personnes. Le peuple n'avait jamais cru entrer aux Tuileries. Il comptait que ce député entrerait pendant que lui défilerait sous les fenêtres. Tous ces drapeaux à devise menaçante, tous ces étendards funestes, il les ferait voir au roi et à la reine à travers les vitres. Toutes les portes donnant sur le château étaient fermées. Il y avait, tant dans la cour que dans le jardin des Tuileries, 3 régiments de ligne, 2 escadrons de gendarmerie, plusieurs bataillons de la garde nationale et 4 pièces de canon. La famille royale voyait des fenêtres cette protection apparente et paraissait assez tranquille. Cependant, la foule, sans mauvaise intention toujours, demandait qu'on lui ouvrît la grille qui donnait sur la terrasse des Feuillants. Les officiers qui la gardaient refusèrent de l'ouvrir sans l'ordre du roi. Alors, trois officiers municipaux demandèrent à passer pour aller quérir cet ordre. On les laissa passer. Montjoie, l'auteur de l'histoire de Marie-Antoinette, a conservé leur nom. C'était Boucher René, Boucher Saint-Sauveur et Mouchet. Mouchet, ce petit juge de paix du Marais, tortu, bancal, déjeté, nain, à l'immense écharpe tricolore. Ils furent admis au château et conduits au roi. Ce fut Mouchet qui porta la parole. « Sire, dit-il, un rassemblement marche légalement sous l'égide de la loi. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Ces citoyens paisibles ne sont réunis que pour faire une pétition à l'Assemblée nationale et veulent célébrer une fête civique à l'occasion du serment prononcé au Jeu de Paume en 1789. Ces citoyens demandent à passer par la terrasse des Feuillants, dont non seulement la grille est fermée, mais encore un canon en batterie leur défend l'accès. Nous venons vous demander, sire, que cette grille soit ouverte et qu'il leur soit accordé un libre passage. « Monsieur, répondit le roi, je vois à votre écharpe que vous êtes officier municipal. C'est donc à vous de faire exécuter la loi. » Si vous le jugez nécessaire au dégagement de l'Assemblée, faites ouvrir la porte de la terrasse des Feuillants, mais que les citoyens défilent par cette terrasse et sortent par la porte des écuries. Entendez-vous donc à cet effet avec monsieur le commandant général de la garde, et surtout faites en sorte que la tranquillité publique ne soit pas troublée. Les trois municipaux saluèrent et sortirent, accompagnés d'un officier chargé de constater que l'ordre d'ouvrir la porte était bien donné par le roi lui-même. On ouvrit la grille. La grille ouverte, chacun voulut entrer. Il y eut un étouffement. On sait ce que c'est que la foule qui étouffe, c'est la vapeur qui éclate et se brise. La grille de la terrasse des Feuillants craqua comme une clé d'osier. La foule respira et se répandit joyeuse dans le jardin. On avait oublié d'ouvrir la porte des écuries. Trouvant cette porte fermée, la foule défila devant les gardes nationaux, rangés en haie contre la façade du château. Puis elle sortit par la porte du quai, et comme il fallait à tout prendre qu'elle retournât à son faubourg, elle voulut rentrer par le guichet du carrousel. Les guichets étaient fermés et gardés. Mais la foule, brisée, meurtrie, bousculée, commence à s'irriter. Devant son grondement, les guichets s'ouvrent et la foule se répand sur l'immense place. Là, elle se rappelle que la principale affaire de la journée, c'est la pétition au roi pour qu'il lève son veto. Il en résulte qu'au lieu de continuer son chemin, la foule attend dans le carrousel. Une heure se passe, elle s'impatiente. Elle s'en serait bien allée, mais ce n'était point l'affaire des meneurs. Il y avait là des gens qui allaient de groupe en groupe et qui disaient « Restez, mais restez donc, le roi va donner sa sanction. Ne rentrons chez nous qu'avec la sanction du roi, ou ce sera à recommencer. » La foule trouvait que ces gens-là avaient parfaitement raison, mais en même temps elle réfléchissait que cette fameuse sanction se faisait bien attendre. On avait faim, c'était le cri général. La cherté du pain avait cessé, mais plus de travail, plus d'argent, et si bon marché que soit le pain, encore ne le donne-t-on pas pour rien. Tout cela s'était levé à 5 heures du matin, avait quitté son grabat, où beaucoup s'étaient couchés à jeun la veille, tout cela, ouvriers avec leurs femmes, mères avec leurs enfants, tout cela s'était mis en route sur cette vague espérance que le roi sanctionnerait le décret et que tout irait bien. Le roi ne paraissait pas le moins du monde disposé à sanctionner. Il faisait chaud et l'on avait soif. La faim, la soif et la chaleur rendent les chiens enragés. Eh bien, ce pauvre peuple attendait, lui, et prenait patience. Cependant, on commence à secouer les grilles du château. Un municipal paraît dans la cour des Tuileries et harangue le peuple. « Citoyens, dit-il, c'est le domicile du roi, et y entrer en armes, ce serait le violer. » Le roi veut bien recevoir votre pétition, mais présentée seulement par 20 députés. Alors les députés que la foule attend, qu'elle croit depuis 1 heure près du roi, les députés ne sont pas introduits. Tout à coup, on entend de grands cris du côté des quais. C'est Saint-Terre et Saint-Uruge avec leurs chevaux, c'est Théroigne sur son canon. Eh bien, que faites-vous là devant cette grille ? Crie Saint-Huruge. Pourquoi n'entrez-vous pas ? Au fait, disent les hommes du peuple, pourquoi n'entrons-nous pas ? Mais vous voyez bien que la porte est fermée, objectèrent plusieurs voix. Théroigne saute à bas de son canon. Il est chargé, dit-elle. Faites sauter la porte avec le boulet. Et l'on braque le canon devant la porte. Attendez, attendez, crient deux municipaux. Pas de violence, on va vous ouvrir. Et en effet, il pèse sur la bascule qui ferme les deux battants. La bascule joue, la porte s'ouvre. Tous se précipitent. Voulez-vous savoir ce que c'est que la foule et quel terrible torrent elle fait? Eh bien, la foule entre. Le canon, entraîné, roule dans les flots, traverse avec elle la cour, montre avec elle les degrés et avec elle se trouve au haut de l'escalier. Au haut de l'escalier sont des officiers municipaux en écharpe. « Que comptez-vous faire d'une pièce de canon » demande-t-il. « Une pièce de canon dans les appartements du roi? Croyez-vous obtenir quelque chose par une pareille violence ?»« C'est vrai, » répondent ces hommes, tout étonnés eux-mêmes que cette pièce de canon fût là. Et ils retournent la pièce et veulent la descendre. L'essieu s'accroche dans une porte et voilà la gueule du canon tournée vers la multitude. « Bon, il y a de l'artillerie jusque dans les appartements du roi !» crient ceux qui arrivent et qui, ne sachant pas comment cette pièce se trouve là, ne reconnaissent pas le canon de Théroigne et croient qu'il a été amené là contre eux. Pendant ce temps, sur l'ordre de Mouchet, deux hommes avec des haches coupent, taillent, brisent le chambranle de la porte et dégagent la pièce qui est redescendue sous le vestibule. Cette opération, qui a pour but de dégager le canon, fait croire que l'on brise les portes à coups de hache. 200 gentilshommes à peu près sont accourus au château, non pas dans l'espoir de le défendre, mais ils croient que l'on en veut au jour du roi et ils viennent mourir avec lui. Il y a en outre le vieux maréchal de Mouchy, monsieur d'Hervilly, commandant de la garde constitutionnelle licencié, à Cloque, commandant du bataillon de la garde nationale du faubourg Saint-Marceau, 3 grenadiers du bataillon du faubourg Saint-Martin, restés seuls à leur poste, messieurs Lecronier, Brideau et Gosse, un homme vêtu de noir qui déjà une fois est accouru offrir sa poitrine à la balle des assassins, dont on a constamment repoussé les conseils et qui, au jour du danger qu'il a essayé de conjurer, vient comme un dernier rempart se mettre entre ce danger et le roi, Gilbert. Le roi et la reine, très inquiets au bruit effroyable de cette multitude, s'étaient peu à peu habitués à ce bruit. Il était 3h30 de l'après-midi, ils espéraient que la fin de la journée s'écoulerait comme le commencement. La famille royale était réunie dans la chambre du roi. Tout à coup, le bruit des haches retentit jusque dans la chambre, dominée par les bouffées de clameurs qui semblent les hurlements lointains de la tempête. En ce moment, un homme se précipite dans la chambre à coucher du roi en criant « Sire, ne me quittez pas, je réponds de tout !» Cet homme, c'était le docteur Gilbert. On ne le revoyait qu'à des distances presque périodiques et dans toutes les grandes péripéties de l'immense drame qui se déroulait. « Ah, docteur, c'est vous! Que se passe-t-il donc ? » demandent à la fois le roi et la reine. « Il se passe, sire, dit Gilbert, que le château est envahi, et que ce bruit que vous entendez, c'est celui que fait le peuple en demandant à vous voir. « Oh !» s'écrièrent à la fois la reine et madame Élisabeth, « nous ne vous quittons pas, sire !»« Le roi, dit Gilbert, veut-il me donner pour une heure la puissance qu'a un capitaine de vaisseau sur un bâtiment pendant la tempête ?»« Je vous la donne, dit le roi. » En ce moment, le commandant de la garde nationale à Cloque paraissait à son tour à la porte, pâle mais décidé à défendre le roi jusqu'au bout. « Monsieur, s'écria Gilbert, voici le roi, il est prêt à vous suivre, chargez-vous du roi. » Et puis au roi, « Allez, sire, allez. » « Mais moi, s'écria la reine, moi je veux suivre mon mari. » « Et moi mon frère, cria madame Élisabeth. » « Suivez votre frère, madame, dit Gilbert à madame Élisabeth, mais vous, madame, restez, ajouta-t-il en s'adressant à la reine. « Monsieur, dit Marie-Antoinette. « Sire, sire, cria Gilbert, au nom du ciel, priez la reine de s'en rapporter à moi, ou je ne réponds de rien. « Madame, dit le roi, écoutez les conseils de monsieur Gilbert et, s'il le faut, obéissez à ses ordres. » Et puis à Gilbert, « Monsieur, ajouta-t-il, vous me répondez de la reine et du dauphin. » « Sire, j'en réponds, ou je mourrai avec eux, c'est tout ce qu'un pilote peut dire pendant la tempête. » La reine voulut faire un dernier effort, mais Gilbert étendit les bras pour lui barrer le chemin. « Madame, lui dit-il, c'est vous et non le roi qui courez le véritable danger. À tort ou à raison, c'est vous que l'on accuse de la résistance du roi. Votre présence l'exposerait donc sans le défendre. Faites l'office du paratonnerre, détournez la foudre si vous pouvez. » « Alors, monsieur, que la foudre tombe donc sur moi seul et épargne mes enfants. » J'ai répondu au roi de vous et d'eux, madame. Suivez-moi. » Puis, se tournant vers madame de Lamballe, qui était arrivée depuis un mois d'Angleterre et depuis 3 jours de Vernon, et vers les autres femmes de la reine, « Suivez-nous, » ajouta Gilbert. Les autres femmes de la reine étaient la princesse de Tarente, la princesse de Trémouille, mesdames de Tourzel, de Macao et de La Rochemont. Gilbert connaissait l'intérieur du château, il s'orienta. Ce qu'il cherchait, c'était une grande salle où tout le monde put voir et entendre. C'était un premier rempart à franchir. Il mettrait la reine, ses enfants, les femmes, derrière ce rempart, et lui en avant du rempart même. Il songea à la salle du conseil. Par bonheur, elle était encore libre. Il poussa la reine, les enfants, la princesse de Lamballe, dans l'embrasure d'une fenêtre. Les minutes étaient si précieuses qu'on n'avait pas le temps de parler. Déjà, on heurtait aux portes. Il traîna la lourde table du conseil devant la fenêtre. Le rempart était trouvé. Madame Royale se tint debout sur la table, près de son frère, assis. La reine se trouvait derrière eux. L'innocence défendait l'impopularité. Marie-Antoinette voulait au contraire se mettre devant ses enfants. « Tout est bien ainsi !» cria Gilbert du ton d'un général qui commande une manœuvre décisive. « Ne bougez pas !» Et comme on ébranlait la porte et qu'il reconnaissait un flot de femmes dans cette marée hurlante, « Entrez, citoyenne, dit-il en tirant les verrous, la reine et ses enfants vous attendent !» La porte ouverte, le flot entra comme à travers une digue rompue. « Où elle est, l'Autrichienne ? Où elle est, Madame Veto ?» crièrent 500 voix. C'était le moment terrible. Gilbert comprit qu'en ce moment suprême, toute puissance échappait à la main des hommes et passait dans celle de Dieu. « Du calme, madame, dit-il à la reine, je n'ai pas besoin de vous recommander la bonté. » Une femme précédait les autres, les cheveux épars, brandissant un sabre, belle de colère, de faim peut-être. « Où est-elle, l'Autrichienne ? Criait-elle. « Elle ne mourra que de ma main !» Gilbert la prit par les bras et la conduisant devant la reine, « La voici, dit-il. » Alors, de sa voix la plus douce, « Vous ai-je fait quelque tort personnel, mon enfant ?» demanda la reine. « Aucun, madame, » répondit la faubourienne, tout étonnée à la fois de la douceur et de la majesté de Marie-Antoinette. « Eh bien alors, pourquoi donc voulez-vous me tuer ? On m'a dit que c'était vous qui perdiez la nation, » balbutia la jeune fille interdite et abaissant sur le parquet la pointe de son sabre. « Alors on vous a trompé. J'ai épousé le roi de France, je suis la mère du dauphin, de cet enfant que voilà, tenez. Je suis française, je ne reverrai jamais mon pays. Je ne puis donc être heureuse ou malheureuse qu'en France. Hélas, j'étais heureuse quand vous m'aimiez. » Et la reine poussa un soupir. La jeune fille laissa tomber son sabre et se mit à pleurer. « Ah, madame, dit-elle, je ne vous connaissais pas. Pardonnez-moi, je vois que vous êtes bonne. » « Continuez ainsi, madame, dit tout bas Gilbert, et non seulement vous êtes sauvée, mais encore tout ce peuple sera dans un quart d'heure à vos genoux. » Puis, confiant la reine à 2 ou 3 gardes nationaux qui accouraient, et au ministre de la guerre, Lajard, qui venait d'entrer avec le peuple, il courut au roi. Le roi venait de se heurter à une scène à peu près pareille. Louis XVI avait couru au bruit. Au moment où il entrait dans la salle de l'œil de bœuf, les panneaux de la porte s'ouvraient, brisés, à la pointe des baïonnettes, les fers des lances, les tranchants des haches passaient par les ouvertures. « Ouvrez !» cria le roi, « ouvrez !»« Mais citoyen, dit la haute voix de Monsieur d'Hervilly, il est inutile d'enfoncer la porte, le roi veut qu'on ouvre. » En même temps, il lève les verrous et tourne la clé. La porte, à moitié brisée, crie sur ses gonds. Monsieur Hacloc et le duc de Mouchy ont le temps de pousser le roi dans l'embrasure d'une fenêtre, tandis que quelques grenadiers qui se trouvent là se hâtent de renverser et d'entasser les bancs devant lui. En voyant la foule envahir la salle avec des cris, des imprécations, des hurlements, le roi ne peut s'empêcher de crier « À moi, messieurs !» 4 grenadiers tirent aussitôt leur sabre du fourreau et se rangent à ses côtés. « Le sabre au fourreau, messieurs !» cria le roi. « Tenez-vous à mes côtés, voilà tout ce que je vous demande. » En effet, peu s'en fallut qu'il ne fût trop tard. L'éclair qui avait jailli de la lame des sabres avait semblé une provocation. Un homme en haillons, les bras nus, l'écume à la bouche, s'élance sur le roi. « Ah, te voilà, Veto !» lui dit-il, et il essaye de le frapper d'une lame de couteau emmanchée d'un bout de bâton. Un des grenadiers, qui malgré l'ordre du roi n'avait pas encore remis son sabre au fourreau, abaisse le bâton avec son sabre. Mais c'est alors le roi lui-même qui, entièrement revenu à lui, écarte le grenadier de la main en disant « Laissez-moi, monsieur, que puis-je avoir à craindre au milieu de mon peuple ?» Et faisant un pas en avant, Louis XVI, avec une majesté dont on l'eût cru incapable, avec un courage qui lui avait paru étranger jusqu'alors, présenta sa poitrine aux armes de toute espèce qu'on dirigeait contre lui. « Silence !» dit au milieu de ce tumulte épouvantable une voix de Stentor. « Je veux parler !» Le canon eût essayé vainement de se faire entendre parmi ses clameurs et ses vociférations, et cependant à cette voix, vociférations et clameurs tombèrent. C'était la voix du boucher Legendre. Il s'approcha du roi presque à le toucher. On avait fait cercle autour de lui. En ce moment, un homme apparut sur la ligne extrême de ce cercle, et derrière la terrible doublure de Danton, le roi reconnut la figure pâle mais sereine du docteur Gilbert. Un coup d'œil interrogateur lui demanda « Qu'avez-vous fait de la reine, monsieur ?» Un sourire du docteur répondit « Elle est en sûreté, sire. » Le roi remercia Gilbert d'un signe. « Monsieur, dit le gendre, s'adressant au roi, à ce mot de « monsieur » qui semblait indiquer la déchéance, le roi se retourna comme si un serpent lui mordut. « Oui, monsieur, monsieur Veto, c'est à vous que je parle, dit le gendre. Écoutez-nous donc, car vous êtes fait pour nous écouter. Vous êtes un perfide, vous nous avez trompés, et vous nous trompez encore. Mais prenez garde à vous, la mesure est comble, et le peuple est là d'être votre jouet et votre victime. » « Eh bien, je vous écoute, monsieur, dit le roi. Tant mieux. Vous savez ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus vous demander la sanction des décrets et le rappel des ministres. Voici notre pétition. » Et le gendre, tirant de sa poche un papier qu'il déplia, lut la même pétition menaçante qui avait déjà été lue à l'Assemblée. Le roi l'écouta, les yeux fixés sur le lecteur. Et puis, quand elle fut achevée, sans la moindre émotion, apparente du moins, « Je ferai, monsieur, dit-il, ce que les lois et la Constitution m'ordonnent de faire. »« Ah oui, dit une voix, c'est là ton grand cheval de bataille, la Constitution de 91, qui te permet d'enrayer toute la machine, de lier la France au poteau et d'attendre que les Autrichiens viennent l'y égorger. » Le roi se retourna vers cette nouvelle voix, car il comprenait que de ce côté lui arrivait une attaque plus grave. Gilbert aussi fit un mouvement et alla poser la main sur l'épaule de l'homme qui avait parlé. « Je vous ai déjà vu, mon ami, dit le roi, qui êtes-vous ? » Et il le regardait avec plus de curiosité que de crainte, quoique la figure de cet homme eût un caractère de terrible résolution. « Oui, vous m'avez déjà vu, sire, vous m'aviez déjà vu trois fois, une fois au retour de Versailles le 16 juillet, une fois à Varennes, l'autre fois ici. Sire, rappelez-vous mon nom. » « J'ai un nom de sinistre augure, je m'appelle Billot. » En ce moment, les cris redoublèrent. Un homme armé d'une pique essaya de darder un coup au roi. Mais Billot saisit la lance, l'arracha des mains du meurtrier et la brisant sur son genou. « Pas d'assassinat, dit-il. Il n'y a qu'un fer qui ait le droit de toucher à cet homme, celui de la loi. On dit qu'il y a un roi d'Angleterre qui a eu le cou coupé par jugement du peuple qui l'avait trahi. » Tu dois savoir son nom, toi, Louis, ne l'oublie pas. Billot, murmura Gilbert. Oh, vous avez beau faire, dit Billot, en secouant la tête. Cet homme sera jugé comme traître et condamné. Oui, traître, crièrent sans voix. Traître, traître, traître. Gilbert se jeta entre le roi et le peuple. Ne craignez rien, sire, dit-il, et tâchez, par quelques démonstrations matérielles, de donner satisfaction à ces curieux. Le roi prit la main de Gilbert et la posa sur son cœur. « Vous voyez que je ne crains rien, monsieur, dit-il. J'ai reçu les sacrements ce matin, que l'on fasse de moi ce que l'on voudra. Quant aux signes matériels que vous m'invitez à arborer, tenez, êtes-vous satisfait ?» Et le roi, prenant un bonnet rouge sur la tête d'un sans-culotte, mit ce bonnet rouge sur sa propre tête. Aussitôt, la multitude éclata en applaudissements. « Vive le roi ! Vive la nation !» crièrent toutes les voix. Un homme fendit la foule et s'approcha du roi. Il tenait une bouteille à la main. « Si tu aimes le peuple comme tu le dis, gros veto, prouve-le en buvant à la santé du peuple !» Et il lui présenta la bouteille. « Ne buvez pas, sire, dit une voix, ce vin est peut-être empoisonné. »« Buvez, sire, je réponds de tout, dit Gilbert. » Le roi prit la bouteille. « À la santé du peuple, dit-il, et il but. » De nouveaux cris de « Vive le roi !» retentirent. « Sire, dit Gilbert, vous n'avez plus rien à craindre, permettez que je retourne à la reine. » « Allez, dit le roi en lui serrant la main. » Et au moment où Gilbert sortait, Isnard et Vergniaud entraient. Ils avaient quitté l'assemblée et venaient d'eux-mêmes faire au roi un rempart de leur popularité et aux besoins de leur corps. « Le roi » demandèrent-ils. Gilbert le leur montra de la main et les deux députés s'élancèrent vers lui. Pour arriver jusqu'à la reine, Gilbert devait traverser plusieurs chambres et entre autres celle du roi. Le peuple avait tout envahi. « Ah !» disaient les hommes en s'asseyant sur le lit royal, « le gros veto, il a un lit, ma foi, meilleur que le nôtre !» Tout cela n'était pas bien inquiétant, le premier moment d'effervescence était passé. Gilbert revenait plus tranquille près de la reine. En entrant dans la salle où il l'avait laissée, il jeta les yeux de son côté et respira. Elle était toujours à la même place. Le petit dauphin, comme son père, était coiffé d'un bonnet rouge. Il se faisait dans la chambre voisine une grande rumeur qui attira vers la porte le regard de Gilbert. Ce bruit, c'était celui que faisait Santerre en s'approchant. Le colosse entra dans la salle. « Oh !» dit-il, « c'est donc ici qu'est l'Autrichienne ?» Gilbert marcha droit à lui, coupant la salle en diagonale. « Monsieur Santerre, » dit-il. Santerre se retourna. « Hé !» s'écria-t-il tout joyeux, « le docteur Gilbert !» Qui n'a pas oublié, dit celui-ci, que vous êtes un de ceux qui lui ont ouvert les portes de la Bastille. Laissez-moi vous présenter à la reine, monsieur Santerre. À la reine? Me présenter à la reine? Grogna le brasseur. Oui, à la reine. Refusez-vous? Non, par ma foi, dit Santerre. J'allais me présenter tout seul, mais puisque vous voilà. Je connais monsieur Santerre, dit la reine. Je sais qu'au moment de la disette, il a nourri à lui tout seul la moitié du faubourg Saint-Antoine. Santerre s'arrêta étonné, puis, fixant son regard un peu embarrassé sur le dauphin et voyant que la sueur coulait à grosses gouttes sur les joues du pauvre enfant, « Oh !» dit-il en s'adressant aux gens du peuple, « ôtez donc le bonnet à cet enfant, vous voyez bien qu'il étouffe !» La reine le remercia d'un regard. Alors, se penchant vers elle et s'appuyant sur la table, « Vous avez des amis bien maladroits, madame, » lui dit à demi-voix ce brave flamand. « J'en connais, moi, qui vous servirai mieux. » Une heure après, toute cette foule s'était écoulée, et le roi, accompagné de sa sœur, rentrait dans la chambre où l'attendaient la reine et ses enfants. La reine courut à lui et se jeta à ses pieds. Les deux enfants saisirent ses mains, on s'embrassait comme après un naufrage. Ce fut seulement alors que le roi s'aperçut qu'il avait encore le bonnet rouge sur la tête. « Ah ! S'écria-t-il, je l'avais oublié !» Et le prenant à pleine main, il le jeta loin de lui avec dégoût. Un jeune officier d'artillerie, âgé de 22 ans à peine, avait assisté à toute cette scène, appuyé à un arbre de la terrasse du bord de l'eau. Il avait vu, à travers la fenêtre, tous les dangers qu'avait courus, toutes les humiliations qu'avait essuyées le roi. Mais à l'épisode du bonnet rouge, il n'avait pas pu y tenir plus longtemps. « Oh » murmura-t-il, « si j'avais seulement 1200 hommes et 2 pièces de canon, je débarrasserais bien vite le pauvre roi de toute cette canaille. » Mais comme il n'avait pas ses 1200 hommes et ses 2 pièces de canon, et qu'il ne pouvait plus supporter la vue de ce hideux spectacle, il se retira. Ce jeune officier, c'était Napoléon Bonaparte.